Santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Pour sortir de l'alcoolisme, le professeur Olivier Amezen a découvert qu'un vieux médicament, le baclofène, pourrait supprimer l'envie impérieuse de boire et rendre même indifférent à l'alcool. Alors ce médicament est en fait un myorelaxant, c'est-à-dire un relaxant habituellement prescrit dans certaines maladies neurologiques. Depuis, de nombreux auteurs ont confirmé cette découverte et de plus en plus de patients sont guéris grâce à ce médicament. Une découverte particulièrement intéressante quand on sait que selon l'Organisation Mondiale de la Santé, l'usage nocif de l'alcool entraînerait 2,5 millions de décès chaque année dans le monde. Un problème qui touche de plus en plus les jeunes générations. Alors approuvé par les uns, critiqué par les autres, le baclofène semble être efficace pour sortir de l'alcoolisme, mais il n'est que rarement prescrit. Pourquoi ? Quel est son mécanisme d'action ? Quelles sont les études en cours ? C'est ce qu'on va voir avec mon invité aujourd'hui, le docteur Renaud de Beaurepaire. Il est chef de pôle de psychiatrie au groupe hospitalier Paul Guiraud à Villejuif et il vient de publier Vérité et mensonges sur le baclofène, la guérison de l'alcoolisme. C'est aux éditions Albin Michel. Et si vous avez envie de participer, dites-nous effectivement si ce baclofène, par exemple, est utilisé en Afrique, si vous en avez entendu parler. Un téléphone, le 33 1 80 82 75 deux fois. Et dans cette émission, on aura également au téléphone le professeur Samuel Mampunza, qui est neuropsychiatre à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et pour terminer, comme tous les jeudis, on retrouvera la chronique du docteur Catherine Solano.
RFI.
Docteur Renaud de Beaurepaire, bonjour.
Bonjour.
Merci vraiment d'être avec nous en direct dans Priorité Santé pour parler de ce sujet qui concerne tant de monde, qui est l'alcoolisme, et avec ce nouveau médicament, le baclofène. Je l'ai dit, hein, c'est un médicament relaxant, habituellement prescrit dans certaines maladies neurologiques. Comment vous avez été amené à finalement prescrire ce baclofène ?
C'est un petit peu par hasard, il s'est trouvé que je connaissais une personne qui s'appelle Olivier Amezen et qui est un professeur de cardiologie très connu qui avait la particularité d'être alcoolique et qui s'est soigné de différentes manières. Pendant longtemps, il n'a pas réussi à se soigner. Et puis un jour, en lisant la littérature scientifique, il s'est aperçu qu'il y avait une molécule qui était possiblement très intéressante dans le traitement de l'alcoolisme, qui était donc ce baclofène, et on dit automédiqué, c'est-à-dire qu'il s'est soigné lui-même avec ce baclofène, et il est arrivé, donc cette chose tout à fait étonnante, c'est que à une certaine dose de baclofène, il est devenu indifférent à l'alcool. C'est-à-dire qu'un jour, il était dans son endroit favori où il avait ses habitudes de boisson, et il s'est aperçu que les bouteilles, les verres, remplir son verre, ça ne lui disait absolument rien. Il était devenu indifférent à l'alcool.
On l'a reçu dans l'émission il y a quelque temps, le professeur Amezen nous avait effectivement raconté son histoire. Alors en fait, du coup, aujourd'hui, vous vous êtes mis à prescrire ce baclofène à des patients. C'est ce qu'on appelle une prescription hors AMM, hors autorisation de mise sur le marché, parce qu'au départ, ce médicament n'était pas du tout prévu pour lutter contre l'alcoolisme.
C'est ça. Ce médicament, donc, comme vous l'avez dit, était prévu pour traiter les spasmes musculaires dans les maladies neurologiques. Alors, il arrive très fréquemment en médecine que des médicaments soient, alors on emploie soit le terme de détourné, soit simplement le terme utilisé dans une autre indication, que des médicaments soient utilisés dans une autre indication que celle qui est prévue par nos instances sanitaires. Par exemple, le baclofène est indiqué dans les maladies neurologiques et pas dans l'alcoolisme. Mais après la découverte d'Olivier Amezen, de plus en plus de personnes se sont mises à s'intéresser à cette molécule qui avait donc un peu miraculeusement guéri Olivier Amezen. Et moi, entre autres, puisque je connaissais Amezen, il m'a fortement encouragé à prescrire du baclofène à mes patients alcooliques, ce que j'ai fait, et j'ai ouvert une consultation baclofène un jour par semaine à l'endroit où je travaille, à Vitry-sur-Seine.
Et là, on peut dire que ça a été un peu la folie, c'est-à-dire que vous avez été submergé de coups de fil.
Parce que Olivier Amezen avait publié son livre en octobre 2008, hein, qui s'appelle Le Dernier Verre. Et ce livre a eu un très très grand succès. Il a été lu par de très très nombreuses personnes, et en particulier des personnes qui étaient désespérément à la recherche d'un traitement pour le traitement de leur alcoolisme. Et j'étais le seul médecin français cité dans ce livre. Donc énormément de personnes qui avaient lu le livre et qui souhaitaient utiliser ce médicament, essayer ce médicament pour se soigner, m'ont téléphoné, puisque j'étais la seule personne dont ils avaient les coordonnées, alors que Olivier Amezen, lui, ne prescrivait pas. Donc du jour au lendemain, c'est-à-dire on se situe là en novembre 2008, des dizaines et des dizaines de personnes en quête de ce traitement par le baclofène ont téléphoné dans mon service. Et voilà, et c'est comme ça que l'histoire pour moi a commencé. Alors, l'autre question, c'était
prescription hors AMM, hors autorisation mise au marché. Vous nous avez dit, finalement, ça arrive pour d'autres traitements. Mais la spécificité là, c'est que c'est non seulement hors autorisation de mise sur le marché, mais en plus à des doses totalement différentes et à des doses assez considérables.
Voilà. Il faut savoir que l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, est donnée à un médicament avec quatre ordres de contrainte, on peut dire, ou d'obligation. C'est-à-dire, c'est donner ce médicament dans une indication précise. Et là, donc, l'indication pour le baclofène, ce sont les maladies neurologiques, les spasmes musculaires dans les maladies neurologiques. Mais il y a aussi trois autres items dans l'AMM qui sont la dose. Et effectivement, la dose qui est prévue pour le baclofène est de 7 comprimés et demi, c'est-à-dire 75 mg, c'est des comprimés à 10 mg, 75 mg par jour pour les traitements en ambulatoire, c'est-à-dire en cabinet, et 120 mg, c'est-à-dire 12 comprimés pour les traitements à l'hôpital. Et Olivier Amezen est devenu indifférent à l'alcool à une dose de 270 mg, ce qui veut dire 27 comprimés par jour, ce qui est largement au-delà de ce qui est autorisé dans l'AMM. Donc dans l'AMM, il y a l'indication, il y a la dose, donc on est hors AMM pour l'indication et pour la dose dans le traitement de l'alcoolisme. Et puis aussi, il y a deux autres choses qui sont le schéma de prescription et la durée de prescription, mais là, ça ne rentre pas en cause dans le cas du baclofène.
On reviendra sur comment vous le prescrivez et vous donnez pas mal de conseils aux médecins. Juste un mot sur le taux de guérison. Ça fait presque 5 ans, 4 ans et demi, vous, que vous le prescrivez. Vous arrivez à quel taux de guérison ?
Alors, à des très très forts taux de guérison qui sont... Il faut nuancer les chiffres, parce que c'est en fonction des malades, en fait, en fonction des patients et de ce qu'ils veulent réellement. Mais pour un patient qui veut réellement arrêter de boire et qui donc va suivre le traitement avec beaucoup d'attention, d'observance, on n'est pas loin de taux de 100%. On est au moins à 80 ou 90%. Les personnes chez lesquelles le traitement est parfois ou même souvent un échec, pas toujours d'ailleurs, sont des personnes qui, en fait, profondément, n'ont pas véritablement envie d'arrêter de boire. Alors évidemment, chez les gens qui n'ont pas envie d'arrêter de boire, leur donner un traitement pour arrêter de boire, c'est souvent un petit peu compliqué, même si, assez souvent, on y arrive, les gens disent, écoutez, c'est extraordinaire votre médicament, moi je voulais continuer à boire parce que l'alcool c'est ma vie, mais je me rends compte que quand même, la vie sans alcool c'est mieux, et je ne vais pas continuer à boire. Autre difficulté avec le traitement par le baclofène, ce sont les effets indésirables. Et si vous voulez, associer aux effets indésirables, c'est la façon dont les patients suivent leur traitement.
Ou dont le médecin les prescrit, d'ailleurs.
Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement la façon dont le médecin les prescrit, mais maintenant, il y a des protocoles qui sont bien connus, qui sont sur Internet, où les médecins savent assez bien comment on prescrit le baclofène. Le principe est extrêmement simple, hein, c'est augmentation d'un comprimé tous les trois jours. C'est comme ça, quand on suit ce protocole, il n'y a aucun doute. Ce qui se passe souvent, c'est que les patients alcooliques, mais aussi d'autres patients qui ont des problèmes dépressifs, des problèmes de distraction, etc., ne prennent pas régulièrement le traitement. Or, il faut absolument prendre régulièrement ce traitement, suivre la prescription de façon tout à fait obsessionnelle. Enfin, il ne faut pas lâcher une prise. Ce qui se passe trop souvent, c'est que des patients, du fait de leur trouble de l'attention, de leur distractibilité, de leur manque de motivation, etc., oublient de prendre le traitement une fois, un jour, deux jours, trois jours, et puis tout d'un coup ils se disent « Ah ben je vais me rattraper, là j'ai oublié mes 10 derniers comprimés, ben je vais les prendre d'un coup. » Et c'est là que c'est la catastrophe.
Et c'est là que c'est la catastrophe, entre autres sur les effets secondaires.
Et c'est là que les effets secondaires apparaissent et qui peuvent être très préoccupants. Ils sont jamais graves.
On reviendra, si vous voulez bien, sur les effets secondaires. J'aimerais bien, on va écouter un témoignage. Aujourd'hui, nous parlons donc du baclofène avec le docteur Renaud de Beaupère. Et je vous propose d'écouter le témoignage de Valérie. Elle a 46 ans, elle est séparée de son mari. Elle travaille à mi-temps dans l'administration. Elle a deux enfants de 10 et 13 ans. Elle commence par raconter les circonstances dans lesquelles elle s'est mise à boire, des propos recueillis par Pauline Mocor.
J'ai toujours été plus ou moins dépendante à l'alcool. Au départ, ça a commencé de manière festive. Je buvais le soir de la bière. Avec ma sœur, c'était assez drôle, on devait avoir une vingtaine d'années. Je buvais aussi avec des amis, et puis petit à petit, ça s'est installé. Et puis, j'ai rencontré le père de mes enfants. Je n'ai pas bu du tout pendant mes deux grossesses. Et à la suite de notre séparation, je me suis mise à boire régulièrement. Ça m'apaisait. Ça a continué, donc, et jusqu'au jour, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse une pause pour voir ce que ça donne. Et j'ai réussi à faire une pause de 15 jours.
Sans une goutte d'alcool.
Sans une goutte d'alcool. Donc, je me suis dit, c'est bon, je m'arrête quand je veux, il n'y a pas de souci, je pouvais m'arrêter. Or, c'est devenu de plus en plus grave le jour du décès de ma sœur. Donc ma sœur s'est suicidée, ça a été un choc énorme. Elle était déjà malade, dépressive. Donc là, j'ai commencé à boire de plus en plus. Je buvais beaucoup de bière. À partir de 20h, je pouvais plus voir personne à la limite, parce que de toute façon, je sentais la bière, donc je m'isolais complètement. Et puis je partageais pas grand-chose avec mes enfants. Eux étaient dans le salon, moi j'étais en train de boire, j'étais dans la cuisine en train de boire. Je m'isolais complètement, j'étais complètement isolé. Ça durait 3 ans à peu près, jusqu'au jour où j'ai eu des idées suicidaires. J'avais un grand couteau de cuisine, j'ai ouvert le tiroir, j'ai vu le couteau, j'étais tenté de le prendre, et j'ai refermé le tiroir en me disant « mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça, c'est pas possible ». Mais ça, c'était dû à l'alcool, parce que je savais que je m'en sortais pas. J'y pensais toute la journée. Toute la journée, je me disais « ce soir tu bois pas, ce soir tu bois pas », c'était une obsession, c'était horrible. Je me sentais minable. J'ai pleuré énormément toute une bonne partie de la nuit, je me suis endormi et quand je me suis réveillé, j'ai eu un flash, baclofène. J'en avais entendu parler par une amie qui avait une fille très 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 alcoolique, très malade. On m'avait proposé d'aller voir des addictologues. J'avais pas envie de prendre ces médicaments comme le Revia et tout ça. Et j'avais déjà entendu dire qu'il y avait énormément d'échecs avec ces traitements. Et de toute façon, ça mène à l'abstinence totale. Ça n'enlève pas l'envie de boire. Alors après, il y a l'abstinence, mais moi j'étais incapable de m'abstenir de boire. Incapable. Donc je me suis rendu dans un centre d'addictologie, où ça a été très compliqué parce qu'il a fallu que j'aie une lettre de ma psychiatre pour pouvoir avoir accès à un traitement par baclofène. Donc au départ, elle a tiqué. C'est pas qu'elle ne voulait pas, mais c'est qu'elle avait peur pour moi. Elle ne connaissait pas ce traitement. Elle m'a suivi et puis j'ai eu accès à un traitement par baclofène. Le problème, c'est que le prescripteur y est allé très très doucement avec moi. Quand je suis allé le voir, j'étais à, je crois, 30 mg et il augmentait les doses de 10 mg par mois. Donc, c'était pas possible.
Donc, ça ne fonctionnait pas ?
Ça ne fonctionnait pas. C'était beaucoup trop lent et j'étais complètement déprimé parce que ça ne marchait pas. Donc, j'ai décidé d'appeler le docteur de Beaupère. Je l'ai vu fin novembre et le 2 janvier, j'étais indifférente à l'alcool.
Donc, ça a pris... un mois.
En un mois, c'était fini. J'étais indifférente.
Et là, vous aviez augmenté de combien la posologie ?
Donc, je suis montée à 210 mg, 21 comprimés par jour, et j'étais indifférente à 21 comprimés par jour.
Et depuis un peu plus d'un an que vous êtes indifférente à l'alcool, vous avez diminué les doses ?
Donc, j'ai essayé de descendre, ça a été catastrophique, j'ai fait une dépression, j'ai changé d'antidépresseur. Donc là, j'ai dû remonter un peu plus et j'ai recommencé à travailler. Mais avec 220 mg, je ne pouvais pas vraiment travailler. Pourquoi ? Parce que le baclofène ne me permettait pas de me concentrer. Donc j'ai descendu le baclofène assez rapidement quand même pour pouvoir enregistrer, mémoriser ce qu'on me disait, parce que sinon c'était pas possible. Aujourd'hui, je suis à 120 mg et je descends tous les 14 jours de 10 mg. Parce que je n'ai plus envie de boire. Plus je descends, plus l'alcool me dégoûte.
Votre projet, c'est d'arrêter complètement le baclofène ?
J'aimerais arrêter complètement. Maintenant, j'ai de l'appréhension à l'arrêter totalement. Je pense que peut-être que j'aurai toujours du baclofène à côté de moi parce que, je ne sais pas, ça me rassure.
Est-ce qu'il y a des effets secondaires au baclofène ?
Oui. Sur moi, c'est la fatigue, la très grande fatigue. C'est la dépression qui est toujours là. J'ai eu également des périodes d'angoisse très fortes. J'ai pas de dynamisme. En tout cas, plus je descends le baclofène, moins j'ai d'angoisse.
Donc le baclofène dans votre vie, c'est plutôt un soulagement finalement.
Le baclofène dans ma vie, c'est plus qu'un soulagement. Là, c'est vraiment, c'est une deuxième vie. Hein.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, dans Priorité Santé sur RFI, nous parlons du baclofène, ce traitement contre la maladie alcoolique. Docteur Renaud de Bourpère, j'aimerais bien une réaction à ce témoignage de Valérie, qui donc est une de vos patientes. Elle parle entre autres de cette question des effets secondaires.
Voilà. Une limitation dans l'efficacité du baclofène, c'est que chez certaines personnes, il produit des effets secondaires qui sont très gênants. Et que ça amène certaines personnes donc à arrêter le traitement ou à ne pas le prendre comme il devrait. Alors, c'est un gros problème. Mais il faut savoir que les effets secondaires disparaissent toujours.
Mais au bout de combien de temps ?
Ça dépend. Ça dépend des personnes et c'est imprévisible. Tout comme la dose de baclofène pour une personne donnée est imprévisible, la survenue des effets secondaires est imprévisible. Il faut savoir qu'il y a à peu près 25% des patients qui n'ont pratiquement aucun effet secondaire, à qui ça fait absolument rien. Et c'est très étonnant d'ailleurs, on a jamais vu un médicament comme ça. Donc, quand les effets secondaires sont très gênants, il faut attendre. Il faut attendre, il faut diminuer les doses de façon à ce que les effets secondaires soient moins importants. Et il faut, alors si les personnes continuent à boire, il faut attendre le temps que les effets secondaires disparaissent et ensuite réaugmenter très lentement, très progressivement les doses. Donc c'est un espèce de jeu, c'est quelque chose qu'il faut manier. C'est aussi, ça fonctionne beaucoup avec ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Les patients sont tout autant, sont très très impliqués dans la prise en charge, c'est pas comme un traitement par, c'est pas les antibiotiques, on vous dit, vous en prenez 3 par jour, on en prend 3 par jour,
et puis c'est comme ça,
point barre. Tandis que ça, on a besoin d'une implication extrêmement importante des patients qui gèrent leur traitement et le médecin, au bout d'un certain temps, devient un espèce de coach qui voit ce qui se passe et qui oriente, qui dit peut-être qu'on pourrait faire ci, peut-être qu'on pourrait faire ça, etc. Mais ça devient de cet ordre. C'est une espèce de discussion entre le patient et le médecin et c'est plus une prescription. Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et c'est très très intéressant. Hein, et ça se passe toujours bien, enfin, à condition que les patients aient la volonté de rentrer dans cette interaction avec le médecin et la volonté et l'autonomie suffisante pour arriver à gérer eux-mêmes avec le médecin le traitement. C'est comme ça que ça se passe. Mais il faut insister sur une chose, c'est que les effets secondaires ne sont absolument pas toxique. Il n'y a rien dans le baclofène qui soit dangereux. C'est un médicament qui est totalement dépourvu de dangerosité. La seule dangerosité du baclofène, c'est que quelqu'un conduise un véhicule et s'endorme au volant. C'est pour ça qu'on demande aux personnes qui prennent du baclofène, au moins pendant les premiers temps de traitement, le temps de s'apercevoir si ça les fatigue, de ne pas conduire. Mais sinon, c'est un traitement qui est totalement dépourvu de toxicité.
Docteur Renaud de Bourpère, on se retrouve dans 3 minutes, hein, juste après les informations. On reviendra sur ces effets secondaires. Ce sont des auditeurs qui ont des questions à vous poser et qui sont inquiets là-dessus. Il y a entre autres Hector qui nous a appelé du Bénin et qui attend en ligne. On le prendra juste après les informations. J'ai aussi des messages d'auditeurs à Abidjan qui ont des questions à vous poser sur ces effets secondaires. Donc on se retrouve dans 3 minutes. Je vous rappelle le téléphone de l'émission, le 33 1 84 22 75 deux fois.
Priorité santé, Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons du baclofène. Où en sont les études sur l'efficacité de ce médicament dans le traitement de l'alcoolisme? On en parle avec le docteur Renaud de Beaurepaire, qui est chef de pôle de psychiatrie au groupe hospitalier Paul Guiraud à Villejuif. Il vient de publier Vérité et mensonges sur le baclofène, la guérison de l'alcoolisme. C'est un livre qui paraît aux éditions Albin Michel. Et vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, nous appeler au 33 1 84 22 75 deux fois. Et on a au téléphone Hector qui nous appelle du Bénin et qui attend depuis un petit moment pour vous poser une question. Hector, vous êtes en direct dans Priorité Santé, vous avez la parole.
Ah ok, bon, je salue votre invité. Bon, sinon j'ai un ami à ma famille qui, pour des raisons familiales, s'est donné à l'alcool. Il a eu un petit peu de pour sa femme qui est décédée dans un accident. Donc il s'est donné à l'alcool, bon, il buvait. Quand il a eu une prescription, on lui avait prescrit le baclofène en question. Donc il a vu ça au bout d'un mois, il a commencé par sentir des effets indésirés, c'est-à-dire il a somnolé, il avait une vision vraiment floue. Donc là, j'aimerais savoir les raisons qui ont poussé à avoir ces effets indésirés. Bien vrai, au bout de quelques temps, ces effets ont disparu, mais pour éviter ces anomalies, j'aimerais savoir.
Hector, je vais me permettre de répéter votre question parce que la ligne téléphonique n'est pas très bonne. Vous connaissez quelqu'un qui a sombré dans l'alcoolisme et il est justement sous baclofène, mais il se plaint de nausées, de céphalées, de troubles visuels et de somnolence. Et vous voudriez savoir ce qu'il en est effectivement de ses effets secondaires. Juste une question, Hector, ça veut dire que ce baclofène est disponible au Bénin?
Bon, je ne saurais dire, parce que c'est le docteur qui le dit, en fait, je ne sais pas là où exactement il a...
Où est-ce qu'il se l'est procuré, mais en tout cas, il est au Bénin et c'est là qu'il a du baclofène. Alors effectivement, docteur Renaud de Beaurepaire, sur ses effets secondaires, céphalées, troubles visuels, somnolence, nausées.
Donc ce sont des effets secondaires qui sont assez habituels et très gênants. Donc l'attitude consiste à arrêter la progression du baclofène et même à diminuer un petit peu la dose à laquelle ces événements indésirables sont survenus, attendre quelque temps, qui peut être de quelques jours, mais d'une semaine, deux semaines, trois semaines, c'est-à-dire le temps que ces effets indésirables disparaissent, et ensuite recommencer la progression des doses en utilisant des demi-comprimés, c'est-à-dire en utilisant des doses encore plus faibles de baclofène, sachant qu'il faut de toute façon augmenter les doses jusqu'à ce que les personnes deviennent indifférentes à l'alcool. Et quand les effets secondaires viennent bloquer la progression, on attend, on prend son temps.
Ça veut dire que le corps s'habitue finalement à ces effets secondaires et que petit à petit ils disparaissent, c'est ça que ça veut dire?
Non, ça veut dire que le corps s'habitue au baclofène. Et il s'habitue plus ou moins bien au baclofène. Il faut savoir qu'il y a dans le cerveau des récepteurs au baclofène, hein, qui sont donc le baclofène agit sur le cerveau, et ces récepteurs sont situés dans des zones qui produisent tous ces effets secondaires, qui produisent des impressions de douleur, des troubles visuels, des troubles sensoriels divers, et que c'est d'une certaine façon c'est assez normal. Voilà, c'est comme ça. Quand le baclofène pénètre dans le cerveau, il va activer ses récepteurs, ça n'a rien de toxique. Il active ses récepteurs, et quand il les active trop, alors il faut baisser le baclofène, attendre que les effets secondaires disparaissent ou deviennent supportables, c'est-à-dire habituer le cerveau à des doses moins importantes de baclofène, mais quand même continuer à habituer le cerveau au baclofène. Et quand les effets indésirables ont disparu ou sont supportables, alors on recommence l'augmentation très très lente du baclofène.
Merci beaucoup Hector pour votre question. Je voudrais vous faire part d'un email qu'on a reçu d'un auditeur à Abidjan qui est sous baclofène et il demande un peu quels sont les effets secondaires à long terme. Lui, il est pour l'instant à 90 mg par jour. Son thérapeute lui propose de passer à 120 voire 150. Ça l'inquiète. Entre autres, est-ce que ça ne peut pas attaquer les neurones?
Alors, là je vais être très clair et très définitif. Ça n'attaque pas les neurones. Le baclofène n'a aucune toxicité. toxicité dans le sens où ça produit des lésions. Le baclofène ne produit aucune lésion. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le baclofène agit sur des récepteurs. Ces récepteurs sont impliqués dans toutes sortes de choses. Et c'est normal que ces choses, c'est-à-dire qui prennent la forme d'événements indésirables, surviennent chez certaines personnes parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité au baclofène. Mais il n'y a aucune toxicité au baclofène. Et je vais rapidement donner un exemple, enfin pas un exemple. Le baclofène existe en France du moins depuis 40 ans. Pour des maladies neurologiques qui sont assez fréquentes, c'est-à-dire qu'il est donné à un grand nombre de personnes, c'est la même chose dans des dizaines de pays. Ce qui veut dire que depuis 40 ans, le baclofène a été donné à des millions et probablement des dizaines de millions de personnes pendant des années et on peut dire des dizaines et des dizaines d'années et qu'il n'y a jamais eu un décès ou jamais eu un effet indésirable de nature toxique qui ait été décrit.
Mais docteur Renaud de Beaurepaire, on ne l'a jamais non plus prescrit à ces doses-là. Et là-dessus, on a moins de recul pour le coup.
Non, là, c'est pas exact. Le baclofène, depuis très longtemps, les neurologues qui donc sont les médecins qui donnent du baclofène à leurs patients pour des problèmes neurologiques, les neurologues donnent du baclofène à des doses bien supérieures à celles de l'AMM, c'est-à-dire 75 à 120 mg. Il y a eu des publications faites dans des journaux de neurologie dès le début des années 90, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans, où les neurologues disaient très clairement qu'ils donnaient des doses très très couramment de l'ordre de 2 ou 300 mg, c'est-à-dire 20 ou 30 comprimés par jour, et cela à l'époque n'avait jamais posé de problème à quiconque.
D'accord, donc pas d'attaque sur les neurones, vous êtes tout à fait ferme. Non. Cet auditeur Abidjan nous dit aussi, mais comment travailler avec de telles doses? Et on l'a entendu aussi dans le témoignage de Valérie, elle le dit bien, c'est que comme il y a des effets secondaires entre autres de somnolence, c'est difficile de travailler. Qu'est-ce que vous répondez à ça à vos patients? Vous faites comment? Arrêt de travail?
Voilà. On considère que la chose prioritaire, c'est qu'ils arrêtent de boire. L'alcool est quand même très toxique. Les patients se plaignent d'effets secondaires sous baclofène, mais on ne parle pas des effets secondaires de l'alcool, qui sont quand même extrêmement nocifs et destructeurs, eux, pour les neurones. Donc on considère que la priorité, c'est d'arrêter de boire. Alors, dans ces conditions, on fait tout ce qu'il faut pour ça. Si c'est nécessaire de faire des arrêts de travail, on fait des arrêts de travail. Souvent, je commence les traitements pendant les vacances. Les gens attendent le début de leurs vacances pour commencer le traitement, sachant que les moments les plus problématiques sont les premières semaines de traitement. Et puis aussi, il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que, comme la personne qui a parlé au téléphone tout à l'heure, Valérie, c'est ça, elle buvait le soir. Beaucoup de gens ne boivent que le soir, et chez les personnes qui travaillent et qui ne boivent pas pendant la journée quand ils travaillent, c'est pas utile de leur donner le traitement pendant la journée. En fait, on cible la soirée et on augmente les doses uniquement le soir, ce qui fait que quand ils ont des effets secondaires, c'est dans la soirée où ils ont pas de...
Oui, c'est ça. Dans votre livre, vous dites finalement à 17h avant de quitter le boulot.
Voilà. Il y a des gens qui commencent à prendre le baclofène à 17h avant de quitter le boulot. Et donc, les effets secondaires, ils apparaissent dans la soirée. Et donc, pendant la journée, il faut savoir que le baclofène a ce qu'on appelle une demi-vie, c'est-à-dire une présence dans l'organisme qui est relativement courte, qui est de 3 ou 4 heures. Au bout de 3 ou 4 heures, ou de 5 heures à peu près, il n'y a plus de baclofène dans l'organisme. Et donc, les effets secondaires ont disparu.
Donc, ça sert à rien de le prendre le matin si on a l'habitude de boire le soir.
Absolument.
Encore deux autres questions de cet auditeur à Abidjan. D'abord, est-ce qu'il y a un risque de dépendance au baclofène?
Alors là, il n'y a aucune dépendance au baclofène. Et alors là, c'est quelque chose, alors, pour les neurobiologistes, parce que c'est très très intéressant d'un point de vue neurobiologique, le baclofène aurait toutes les raisons de produire une dépendance dans le sens où on pense que il a ce qu'on appelle un effet de substitution à l'alcool. C'est-à-dire que il prend la place de l'alcool, même si c'est, ce que je dis n'est pas exact d'un point de vue neurobiologique, ça l'est d'un point de vue clinique. On a l'impression que le baclofène prend la place de l'alcool, tout comme dans les thérapeutiques aux opiacés, vous savez, on a ces médicaments qui s'appellent la buprénorphine, etc., qui sont des médicaments du sevrage aux opiacés et du traitement de la dépendance aux opiacés. Ce sont des traitements de substitution, ou même d'ailleurs comme la nicotine dans la cigarette, ce sont des médicaments qui prennent la place de la molécule mais qui n'en ont pas la toxicité. Avec le baclofène, on a l'impression que c'est un petit peu la même chose. Simplement, pour ce qui est des opiacés par exemple, il y a des patients qui deviennent dépendants au Subutex ou qui en surconsomment. À la nicotine, il y a des gens qui deviennent dépendants au patch. Et avec le baclofène, il n'y a aucune dépendance au baclofène. Je n'en ai jamais vu. J'ai jamais vu de patient qui surconsomme du baclofène pour le plaisir, c'est-à-dire comme si c'était une drogue. C'est une drogue, c'est une molécule qui n'est en aucune manière addictogène, hein, pour prendre le terme consacré.
Dernière question de cet auditeur. Une rechute avec l'absorption de baclofène, est-ce que c'est grave? Une rechute d'alcool?
C'est pas grave du tout. Alors, je sais pas quelle était exactement la question, mais il y a deux possibilités.
Ça veut dire clairement, sous baclofène, avoir encore envie de consommer l'alcool et d'en consommer. Donc, est-ce que ces genres de rechutes sont graves?
C'est, ça a aucune gravité. La seule gravité, c'est celle de la prise d'alcool. C'est-à-dire qu'effectivement, s'ils rechutent, l'alcool est toxique pour eux. Simplement, quand les personnes rechutent, eh bien, on augmente la dose de baclofène et on arrive toujours à juguler l'addiction, la rechute et à faire en sorte que les patients arrêtent de boire. Maintenant, je voulais juste dire une autre chose parce que c'était une autre possibilité dans ce que vous aviez dit. Quand il y a des patients qui rechutent parce qu'ils ont arrêté le baclofène, c'est juste pour dire que le baclofène ne produit aucun effet d'habituation. C'est-à-dire que si vous prenez du baclofène et puis que vous l'arrêtez et que vous rechutez, quand vous reprendrez du baclofène, il sera tout aussi efficace que la première fois. Il n'y a pas eu de d'émoussement de l'efficacité.
C'est important ça, absolument. On a au téléphone le professeur Samuel Mampunza qui est neuropsychiatre, ancien doyen de la faculté de médecine de Kinshasa, doyen maintenant de la faculté de médecine de l'université protestante au Congo. Professeur Samuel Mampunza, bonjour.
Bonjour madame.
D'abord, quelle est la fréquence des problèmes d'alcoolisme en République démocratique du Congo?
Eh bien, là, je dois d'emblée avouer qu'il n'y a pas d'études épidémiologiques qui ont été effectuées. Ce qui fait que les problèmes existent réellement, comme cliniciens nous le voyons, mais quelle est son importance en termes de problèmes de santé publique? Ça, nous n'avons pas de chiffres.
Simplement, vous pouvez dire que c'est assez fréquent d'après ce que vous voyez.
Absolument. L'alcoolisme, la dépendance à l'alcool, c'est un réel problème de santé publique et ça existe.
Le baclofène dont on vient de parler pendant toute l'émission, est-il utilisé en RDC?
Non, il est utilisé personnellement comme spécialiste. Je l'ai utilisé quelques 2-3 fois. Et c'est pas un produit qui est sur la liste des médicaments essentiels du pays. Mais il y a possibilité de s'en procurer. Ça, c'est clair. Et les neurologues qui l'utilisent comme mieux relaxant pour relaxer la contracture musculaire, ils savent aussi s'en procurer.
Vous en avez bien sûr entendu parler dans le traitement de l'alcoolisme. Vous suivez ce qui se passe en termes de nouveautés en France et dans le monde. Est-ce que du coup, vous ou d'autres psychiatres commencent à l'utiliser dans le traitement de l'alcoolisme? Ou vous êtes réticent à ça?
Alors ici, je suis un peu dubitatif, c'est ce qu'il faut dire. Et je pense que c'est important pour nos auditeurs qu'ils comprennent que ce n'est qu'un traitement parmi d'autres. Et comme tout traitement, il n'est jamais, il ne donne satisfaction, jamais satisfaction à 100%. Et il y a des critères d'élection, et ça serait peut-être une question que je poserais à mon confrère, qui est l'auteur du livre, qui sont éligibles au traitement et dans quelles conditions? Parce que ce traitement-là ne doit pas réussir à 100%. Parce que ce traitement-là n'est qu'une des mesures qui accompagne ceux qui veulent arrêter de boire. La volonté d'arrêter, le confrère l'a dit, c'est très important. Donc, personnellement, j'ai entendu parler du baclofène, j'ai beaucoup lu sur le baclofène, mais je sais que ce n'est pas le traitement qui résoudrait du coup ces grands problèmes de santé publique. Mais permettez-moi, madame, de dire quand même ici, selon ce que je viens d'entendre, que le baclofène n'entraîne pas de dépendance. Moi, j'ai eu deux patients étrangers qui sont venus au Congo. Ils ont cherché un psychiatre parce qu'ils étaient sous baclofène. Ils n'avaient plus leur baclofène, ils voulaient une prescription du baclofène. Eh bien, je les ai reçus dans un syndrome de sevrage, de manque de baclofène, qui était suffisamment grave qu'il fallait absolument leur represquer le traitement. Donc, c'est quand même un traitement qui est efficace, à un certain taux, jamais à 100%, mais qui mérite d'être quand même pris avec une certaine surveillance.
Alors, le docteur Renaud de Beaurepaire va vous répondre, et moi, là-dessus, j'ai une question. Est-ce que c'est finalement le manque de baclofène ou l'envie d'alcool qui est... La dépendance, elle est à quoi? Elle est à l'alcool ou au baclofène, docteur de Beaurepaire?
Alors, d'abord, je remercie mon collègue. Et ce que je voudrais dire, c'est que le discours que vous tenez, hein, cher confrère, c'est exactement le même que je tenais il y a 4 ou 5 ans quand j'ai été en situation de prescrire du baclofène. Je n'y croyais pas. Et je disais, ce que vous dites, hein, c'est que, bon, ça marche peut-être chez certaines personnes, mais il faut voir que on ne peut pas imaginer qu'un médicament seul va résoudre un problème aussi complexe que celui de l'alcoolisme, etc. C'est-à-dire que j'étais très sceptique et je suis absolument persuadé que ce que vous dites est ce que pense la majorité des médecins qui
sont encore aujourd'hui
sont confrontés à cette histoire de baclofène. Il y a que 5 ans après ou 4 ans après, j'ai totalement changé, que je considère que le baclofène est une des plus grandes découvertes à situer dans l'histoire de la médecine au niveau, des antibiotiques, de l'insuline, c'est-à-dire que c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, qui dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer, et que c'est vraiment que je comprends que tout le monde soit sceptique, parce que c'est tellement nouveau et révolutionnaire qu'on ne peut pas d'emblée croire ce que disent des gens comme moi.
J'ai toujours entendu quand on a fait des émissions sur l'alcoolisme, c'est qu'on était très démunis en termes de traitement et qu'en gros, il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnait. Et là, on est sur des taux de réussite bien supérieurs aux autres traitements. Je me trompe si je dis ça?
Voilà, absolument. Il y a un pessimisme chez tous les alcoologues, chez tous les médecins en général qui ont été confrontés depuis toujours, à la question du traitement de l'alcoolisme. Moi, j'étais extrêmement pessimiste quand je voyais un alcoolique. J'avais le sentiment que je n'arriverais pas à le soigner et que j'allais faire ce que je pouvais, mais qu'il fallait que la personne ait elle-même des ressources psychologique très importante pour pouvoir maintenir une abstinence et qu'il y avait une espèce de lutte entre les possibilités de volonté et aussi les possibilités que laissait la nature de cette, parce que c'est une maladie, la maladie alcoolique, et souvent la volonté est incapable de la surmonter. Donc, j'avais ce sentiment d'être très, très impuissant devant cette question d'alcoolisme. Et je comprends très bien que des personnes qui n'aient pas l'habitude d'utiliser le baclofène aient le même scepticisme. Maintenant, quand on utilise le baclofène, quand on a l'habitude de l'utiliser, quand on sait l'utiliser, c'est-à-dire en prenant certaines précautions, c'est un médicament qui est totalement extraordinaire.
Et d'ailleurs, vous avez fait un guide de prescription du baclofène qui est disponible sur Internet.
Il y a un guide de prescription du baclofène qui est effectivement disponible sur Internet. Il faut aller sur les sites des associations, l'association Aube ou l'association Baclofène, et on peut avoir accès à ce guide. Mais généralement, c'est pour les médecins seulement.
Oui, c'est important.
Pour les malades. Deuxième chose, est-ce que je peux dire une deuxième chose? Parce que donc mon collègue là a parlé de ce patient qui aurait été dépendant au baclofène. Alors je crois que moi, j'ai jamais vu de cas de dépendance au baclofène. J'ai vu quelques patients qui étaient toxicomanes à tout, on leur donnerait un placebo, ils étaient toxicomanes au placebo, et qui prenaient absolument tout ce qu'on leur donnait. Très bien, il y en a eu comme ça quelques-uns qui ont été, on pourrait dire, addicts au baclofène, mais en fait, ils auraient été addicts aussi bien
à
l'élixir de l'abbé souris, à n'importe quoi. C'est absolument... Donc très bien. Par contre, le patient dont a parlé mon collègue, Il y a un principe aussi avec le baclofène, c'est qu'on n'arrête jamais brutalement un traitement par le baclofène. Ça se rapporte un petit peu à la question de la substitution dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand on arrête brutalement l'alcool, on a un syndrome de sevrage. Quand on arrête brutalement le baclofène, on a un syndrome de sevrage. Possible, tout le monde ne l'a pas. Mais il y a eu des exemples qui ont été décrits de personnes qui prenaient du baclofène et qui, à l'arrêt brutal, ont eu un syndrome de sevrage. Et qui ressemblent d'ailleurs beaucoup au syndrome de sevrage à l'alcool. C'est ça qui est très très intéressant. C'est des confusions mentales, parfois des hallucinations, des délires, parfois des crises d'épilepsie. C'était exactement ce que l'on voit dans quelque chose qui s'appelle le délirium tremens, hein, qui est donc ce syndrome grave qu'on observe chez les personnes qui sont très alcoolisés de façon chronique et qui arrêtent brutalement l'alcool. On observe la même chose avec le baclofène.
Et d'ailleurs, je fais juste une parenthèse, c'est pour ça que quand on est alcoolique, il faut surtout pas arrêter tout seul, parce qu'il y a de vrais dangers pour la santé.
Absolument. Mmh. Arrêter brutalement l'alcool, ça expose à des symptômes très préoccupants, l'épilepsie, la confusion, etc.
Oui, je voudrais juste poser une dernière question au professeur Mampunza. En écoutant le docteur de Beaurepaire, est-ce que vous n'êtes pas convaincu ou encore sceptique?
J'espère que non.
Il faut dire, madame, que comme scientifique, comme praticien, je ne suis pas sceptique. Je suis tout simplement réaliste parce que, au fait, quand il y a des signes de manque pour revenir à cette dépendance, ça veut dire qu'on a était dépendant à quelque chose. Le produit n'y est plus et ça entraîne ces signes de manque. Des deux, il faut dire que dans toute médication, les effets observés sur 1000, sur 10 000, sur 100 000 personnes ne suffisent pas pour déclarer un produit sans effet indésirable, grave, ainsi de suite. C'est un travail à long terme, une pharmacovigilance qui doit accompagner la prescription de ces médicaments. Surtout à forte dose.
Et justement, on parlera du coup dans cette émission-là. Après, il nous reste encore quelques minutes des études scientifiques parce que c'est important. Professeur Mampunza, merci beaucoup et on va s'arranger pour vous envoyer le livre du docteur de Beaurepaire. Je voudrais juste qu'on prenne une dernière question d'auditeur, en l'occurrence d'auditrice. On a Sophie qui nous appelle de Dakar au Sénégal et qui avait une question à vous poser. Sophie, bonjour, on vous écoute.
Allez, bonjour.
Allez-y, Sophie. Bonjour. Oui, on vous écoute, Sophie.
Oui. Bon, je disais que là, mon père qui suit un traitement avec un psychiatre et le médicament qu'il prenait, c'est le Lexomil. Maintenant, j'aimerais savoir si c'est possible de d'utiliser le baclofène, mais le médecin, il dit toujours rien à propos de cela.
Et surtout, dans votre question, vous disiez, est-ce qu'on peut finalement faire de l'automédication avec ce baclofène et se le prescrire soi-même si on ne trouve pas de médecin qui le prescrive, docteur de Beaurepaire?
J'ai eu pas mal d'exemples de personnes, effectivement, qui ne trouvaient pas de médecin pour prescrire le baclofène et qui s'en sont procurés par Internet et qui se sont automédiqués. Alors, c'est toujours dangereux, l'automédication. C'est quand même beaucoup mieux d'avoir le regard d'un médecin au-dessus pour conduire la prescription. Cela dit, il y a des personnes qui peuvent être de bons médecins pour eux-mêmes, qui peuvent se procurer les guides de prescription et les protocoles de prescription et les suivre à la lettre en prenant du baclofène qu'ils ont trouvé par des voies qui sont donc pas les voies officielles. Je vais pas trop les critiquer, mais enfin, il y a quand même pas mal de patients qui sont venus me voir après une période d'automédication et qui me disaient qu'ils s'en sortaient pas et qui préféraient avoir
quand même
quelqu'un qui les guidait.
Donc c'est pas à conseiller. Il vaut mieux essayer de trouver
un médecin. C'est pas à conseiller du tout.
Par contre, ce qu'on veut peut-être, nous, c'est essayer de recevoir des emails de médecins, de psychiatres sur le continent africain qui ont commencé à prescrire le baclofène et on pourrait essayer de vous donner les coordonnées. Pour terminer, je voudrais qu'on parle des études scientifiques en cours qui prouvent l'efficacité de ce baclofène. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes paradoxalement assez critique sur ces études scientifiques.
Ah non.
Ah, puis j'ai senti ça dans votre livre. Alors
je suis désolé. Alors je ne sais pas ce qui. Non.
Non,
je
ne suis pas du tout critique.
Ah, non. Alors voilà, excusez-moi.
Vous critiquez une étude contre placebo.
Non. Effectivement, ce que je critique, ce ne sont pas du tout les études. Les études sont parfaitement bien. Il y a aucune inquiétude à avoir à ce sujet-là. Non. Ce que je critique, c'est le fait que l'on ait décidé qu'il était nécessaire de faire d'énormes études, parce que ce sont des études très longues et très lourdes, alors qu'il aurait été beaucoup plus simple d'autoriser le baclofène. Il y avait assez d'études faites jusqu'à présent pour autoriser le baclofène. C'était pas la peine de remettre en place des études très lourdes. Et ce que je dis dans mon livre, c'est que les études très lourdes, qui sont très bien, qui sont en cours actuellement, ont aussi eu pour fonction de retarder l'autorisation du baclofène. On nous a fait croire, et à mon avis c'était un mensonge, on nous a fait croire qu'il fallait faire de longues études pour autoriser le baclofène, et grâce à ça, certaines personnes qui préféreraient ne pas voir le baclofène autorisé trop rapidement ont été satisfaites, parce que effectivement, mettre en place des études, cela implique de retarder de plusieurs années l'autorisation du baclofène.
Et qui sont ces personnes qui n'auraient pas intérêt à ce que le baclofène soit reconnu comme un traitement de l'alcoolisme? C'est qui? C'est l'industrie pharmaceutique qui essaye de sortir d'autres traitements?
Non, c'est pas que l'industrie pharmaceutique. Ce sont toutes les personnes, toutes les entités qui ont investi dans le traitement de l'alcoolisme. Alors, il y a des médicaments, mais il y a aussi des structures publiques, il y a des structures privées.
Des centres de sevrage.
Des centres. C'est-à-dire, il y a énormément de personnes, il y a les alcooliques anonymes, il y a tous ces centres qui se sont développés au cours des 30-40 dernières années, qui sont des structures extrêmement fortes, extrêmement puissantes, mais aussi extrêmement onéreuses. Et qui ont investi sur le long terme, ça veut dire des emplois, ça veut dire une industrie, etc. Et qui ont donc fait des investissements financiers sur le long terme, les laboratoires en font partie, et puis qui voient tout d'un coup tomber du ciel une molécule dont personne n'aurait pensé qu'elle avait le moindre intérêt. C'est pas question du prix de la molécule. C'est question que cette molécule marche mieux que tout ce qu'on peut imaginer, que tout ce que eux-mêmes n'avaient jamais imaginé. C'est un truc, j'emploie le terme, il y a des gens qui me l'ont reproché, qui est miraculeux dans l'alcoolisme. Et donc, évidemment, tous ces gens qui ont investi, et souvent généreusement, je leur jette pas la pierre du tout. Des gens ont créé des structures de traitement de l'alcoolisme parce qu'ils étaient conscients de ce problème terrible qu'est l'alcoolisme, et ils étaient pleins de bonne volonté et de bonne foi. Ils ont fait des emprunts, des investissements, et tout d'un coup arrive cette molécule qui réduit à zéro tous leurs efforts. Ils sont pas contents.
Juste, il nous reste quelques secondes. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Une recommandation temporaire d'utilisation? C'est ça? Est-ce qu'il y a des pays qui l'ont déjà autorisé pour le traitement de l'alcoolisme?
Non, les RTU, c'est un truc assez français.
En 10 secondes, est-ce qu'il y a des pays qui l'ont autorisé?
Non.
Non, pas
non.
Encore.
Et une RTU, c'est aussi une façon de différer. Il faut tout simplement autoriser le baclofène, point barre.
Merci beaucoup, docteur Renaud de Beaurepaire. Je rappelle que vous venez de publier Vérité et mensonges sur le baclofène, la guérison de l'alcoolisme. C'est un livre qui paraît aux éditions Albin Michel. Merci à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Au revoir à tous et à demain. On parlera de la maladie de Parkinson.